en temps universel. 2 heures de plus ici à Paris.
RFI Midi.
Le journal. Bonjour Olivier Sherman.
Bonjour Clotilde Dumay. Bonjour à toutes et à tous. Les discussions à Paris entre les États-Unis, l'Europe et l'Ukraine concernant le conflit entre la Russie et l'Ukraine ont débuté au palais de l'Élysée. Au même moment, le Kremlin accuse la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne de vouloir la poursuite de la guerre, nous dira notre correspondante à Moscou, Anissa El-Jabri. Les négociations entre Tokyo et Washington à propos des droits de douane, pas d'accord entre les deux pays, mais de grands progrès selon Donald Trump. Le 17 avril 1975, il y a 50 ans jour pour jour, la capitale du Cambodge, Phnom Penh, tombait aux mains des Khmers rouges, le début d'un génocide qui a fait 1 700 000 morts. Nous entendrons le réalisateur franco-cambodgien Rit Tipan, un survivant des massacres. Il n'arrive toujours pas à pardonner. Enfin, le Vatican était au courant dès l'automne 1955 des agressions et viols de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, une figure en France de la défense des pauvres, décédé en 2007, est visé par 33 accusations de violences sexuelles et notamment des enfants au moment des faits présumés. Un déjeuner de travail en ce moment à Paris entre Emmanuel Macron et le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio. Ce déjeuner sera suivi d'une rencontre internationale avec en plus de la France et des États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le bras droit du président ukrainien. Au menu, le conflit en Ukraine en plein pourparlers mené par Washington avec Moscou. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame de faire pression sur les tueurs pour mettre fin à l'invasion de son pays par la Russie. Et avant même la fin des discussions à Paris et de possibles annonces, le Kremlin a déjà réagi. À Moscou, les explications d'Anissa El-Jabri.
Comme toujours, la réaction russe est à double détente. D'un côté, une accentuation des discours anti-français dont les médias ciblent aussi directement le chef de l'État Emmanuel Macron et sa politique. Comme toujours aussi un tweet de Dmitri Medvedev, l'ex-premier ministre et président coutumier depuis le début de la guerre, des déclarations faites pour choquer et brutaliser. Sur la réunion de Paris, le porte-parole du Kremlin s'est plus classiquement contenté d'inverser les responsabilités et de peindre Paris, Berlin et Londres en fauteurs de guerre.
Bien sûr, divers aspects du règlement ukrainien seront abordés. Notre président a récemment eu une très longue conversation avec Monsieur Witkoff. Nous savons que le contenu de cette conversation a été rapporté au président Trump. Les États-Unis continuent d'œuvrer dans ce sens avec les Européens et les Ukrainiens. Nous nous attendions alors, bien sûr, à ce qu'ils se concentrent sur la recherche d'un règlement pacifique. Malheureusement, nous constatons que les Européens se focalisent sur la poursuite de la guerre.
Le chef de l'État russe, lui, s'est contenté d'une carte postale. Vladimir Poutine reçoit aujourd'hui l'émir du Qatar. Le Qatar qui joue aussi un rôle de médiation dans la guerre en Ukraine et a notamment aidé à rapatrier des enfants ukrainiens transférés en Russie. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Et en plus de la guerre en Ukraine, Olivier, le dossier du nucléaire iranien devrait être au menu des entretiens entre Américains et Européens.
Et ce, avant la nouvelle séance de pourparlers, samedi à Rome avec l'Iran, une semaine après l'ouverture de discussions indirectes à Oman entre Washington et Téhéran. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique rencontre aujourd'hui à Téhéran son homologue iranien. L'AIEA est chargée de vérifier le caractère pacifique du programme nucléaire de l'Iran. Les pays occidentaux, États-Unis en tête et Israël, soupçonnent de longue date l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Téhéran rejette ses suspicions et défend un droit au nucléaire à des fins civiles, notamment pour l'énergie.
Une frappe aérienne israélienne sur des tentes abritant des personnes déplacées dans la bande de Gaza a fait au moins 34 morts.
Une annonce de la défense civile palestinienne, de nombreux blessés aussi dans cette frappe menée par 2 avions de chasse israéliens près de Ran Younes, dans le sud du territoire palestinien. L'armée israélienne, qui n'a pas commenté dans l'immédiat ces frappes, a intensifié ses bombardements aériens et élargi ses opérations terrestres dans la bande de Gaza assiégée depuis qu'elle a repris son offensive le 18 mars. Et puis je vous signale la photo bouleversante d'un garçon palestinien de 9 ans qui a perdu ses 2 bras alors qu'il fuyait une attaque israélienne à Gaza. Cette photo vient de remporter le premier prix du World Press Photo 2025. L'image capturée par la photographe palestinienne Samar Abou Elouf pour le New York Times est un portrait du jeune garçon évacué à Doha après qu'une explosion lui a arraché un bras et mutilé l'autre l'année dernière.
C'était il y a 200 ans jour pour jour, la France reconnaissait l'indépendance d'Haïti.
Première République noire déclarée une vingtaine d'années plus tôt par les esclaves haïtiens qui s'étaient révoltés. Une souveraineté au prix d'une dette très importante. Les Haïtiens parlent, eux, de rançon, 150 millions de francs or, des centaines de milliers d'euros actuels empruntés de force à des banques françaises. Et le début d'une spirale d'endettement pour Haïti, aujourd'hui le pays le plus pauvre des Amériques. De nombreuses voix s'élèvent en Haïti, en France et aux États-Unis pour obtenir réparation des crimes commis par l'État français de l'époque, mais aussi de la dette. Juliette Chaignon, bonjour.
Bonjour.
Alors Emmanuel Macron doit s'exprimer sur le sujet aujourd'hui, jour du bicentenaire.
D'après l'Élysée, oui, Emmanuel Macron doit reconnaître aujourd'hui une injustice initiale imposée à Haïti. Le président doit aussi annoncer le début d'un chantier mémoriel, un travail historique en profondeur pour déterminer les conséquences de la dette sur le développement d'Haïti. Reconnaissance, mais pas repentance, précise l'Élysée, dans la lignée des travaux menés sur la guerre d'Algérie ou la colonisation du Cameroun. L'Élysée ne précise pas comment sera traitée la question d'une réparation financière. En Haïti, les attentes sont pourtant grandes. Le pays est en proie à la violence des gangs et subit une catastrophe économique et humanitaire, le tout avec un État proche de l'effondrement, gangréné par la corruption. Le sujet de la dette avait été mis de côté depuis 2004, mais il est revenu sur la table après une visite en janvier de Leslie Voltaire, ex-dirigeant haïtien du Conseil présidentiel de transition. Il avait assuré avoir parlé de restitution avec Emmanuel Macron. Pour la France, l'enjeu dépasse le cas d'Haïti. En faisant un geste financier envers ce pays, elle enverrait aussi un signal à ses autres ex-colonies en demande de réparation, comme la Guyane ou la Martinique.
Juliette Chaignon du service international de RFI. Pas d'accord pour l'instant entre Tokyo et Washington, mais de grands progrès selon Donald Trump. Le Japon était le premier pays à négocier directement à la Maison-Blanche pour tenter d'obtenir la levée des droits de douane. Le ministre japonais de la revitalisation économique a rencontré le président américain, mais Justine Fontaine, il repart sans rien pour l'instant.
La rencontre était scrutée par de nombreuses capitales qui cherchent encore à savoir si une négociation est vraiment possible avec Washington et dans quels termes. Japonais et Américains ont convenu de se revoir ce mois-ci et le chef de la délégation nippone, le ministre de la revitalisation économique, a assuré à sa sortie de la réunion que les États-Unis veulent aboutir à un compromis d'ici 90 jours. Le Japon a beau être un allié historique des États-Unis et le premier investisseur étranger sur le sol américain. Il est malgré tout soumis au même régime que l'essentiel de la planète. 10% de droits de douane pour l'instant sur tous ses produits et 25% sur l'aluminium, l'acier et surtout les voitures. C'est ce que le Japon vend le plus aux États-Unis. Plus d'un quart de ses exportations sur le sol américain. Donald Trump accuse Tokyo de ne pas acheter assez de produits états-uniens et il estime que le soutien militaire américain à l'archipel coûte trop cher. Le locataire de la Maison-Blanche doit rencontrer ce jeudi la première ministre italienne Giorgia Meloni. Une délégation sud-coréenne est aussi attendue dans les prochains jours à Washington.
Et des négociateurs indonésiens sont par ailleurs déjà présents dans la capitale américaine pour tenter eux aussi de lever les droits de douane qui pèsent sur leur pays.
L'inquiétude monte dans les universités américaines face aux offensives de l'administration Trump.
Et le dernier exemple en date, la suppression de plus de 2 milliards de dollars de subventions à Harvard et la menace d'interdire à l'établissement d'accueillir des étudiants étrangers. Une pression grandissante que la France pourrait utiliser afin d'attirer des cerveaux venus des États-Unis. L'ancien président et désormais député François Hollande vient ainsi de déposer une proposition de loi créant un statut de réfugié scientifique, Aurélien Devernoy.
Oui, l'objectif c'est d'adapter rapidement le droit d'asile français pour accélérer les procédures d'accueil des chercheurs et scientifiques, explique-t-on dans l'entourage de François Hollande. Les coups de boutoir de Donald Trump pourraient en effet provoquer l'exil de centaines d'intellectuels installés aux États-Unis. Le président de l'université d'Aix-Marseille, Éric Berton, avec lequel l'ancien chef de l'État a signé une tribune à ce sujet, a d'ailleurs lancé un programme d'accueil ayant déjà reçu 300 candidatures. Le problème, c'est que le cas des chercheurs et scientifiques empêchés de travailler sur leur dossier de prédilection n'existe pas aujourd'hui dans la loi française, d'où la nécessité de créer un cadre juridique simple et durable, explique François Hollande. Sa proposition de loi, qui ajoute un quatrième point aux règles du droit d'asile déjà en vigueur, a donc été déposée ce lundi à l'Assemblée nationale avec l'espoir d'un examen dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Mais cela ne suffira sans doute pas. Il faudrait aussi un mécanisme européen d'accueil, d'ores et déjà demandé par les sociaux-démocrates élus au Parlement européen. Et surtout, de l'argent, beaucoup d'argent, les universités américaines offrant des conditions financières aujourd'hui incomparables avec celles proposées en France et en Europe.
Aurélien Devernois du service politique de RFI. Il y a 50 ans, exactement, la capitale du Cambodge, Phnom Penh, tombait aux mains des Khmer Rouges. L'ouverture d'une période, d'une violence inouïe sous le règne de Pol Pot et de Longkar, le parti communiste du Kampuchea. La gigantesque rééducation à marche forcée du pays a débouché sur un génocide faisant 1 700 000 morts. C'était donc le 17 avril 1975. Ce jour-là, Rithipan s'apprêtait à fêter ses 13 ans. Sa famille a été décimée. Lui survivra à l'horreur et deviendra réalisateur de fiction, mais surtout de documentaire. 50 ans plus tard, le pardon est-il possible ? Arnaud Pontus lui a posé la question.
Je pensais qu'au début, peut-être en une génération, c'est bon. Mais en fait, on est aux deuxième génération.
Et en fait, toujours pas.
Et toujours pas. Donc, il faut apprendre à vivre avec. Il faut apprendre à parler de ce sujet-là d'une manière calme, précise. Il faut... pardonner, oui, si on arrive, c'est bien. Mais je crois que le pardon est toujours supérieur que vivre avec une sorte de revanche, envie de revanche, d'une sorte de tristesse dans le cœur. Mais le pardon, c'est super compliqué. Moi j'arrive pas. Hein. J'espère que j'arriverai un jour. Je travaille sur moi-même. Il y en a qui peuvent oublié et je le souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur avec. Puis il y en a qui ne peuvent pas. Et à ceux qui n'en peuvent pas, il faut les aider. Il faut les aider par des films, par les livres, par le dialogue, par l'empathie. C'est très important, j'insiste beaucoup sur ça. Ça permet à chacun de vivre et finir leur vie plus pacifiée.
Le réalisateur franco-cambodgien Rithipan, un grand invité international de RFI ce matin avec Arnaud Pontus, interview à retrouver en intégralité sur le site de notre radio du monde, de votre radio du monde, www.rfi.fr.
Le Vatican était au courant des agissements de l'abbé Pierre, accusé d'agression sexuelle.
Ces révélations figurent dans le livre enquête « L'abbé Pierre, la fabrique d'un saint », coécrit par les journalistes de La Croix et de la cellule d'investigation de Radio France. Le livre est publié aujourd'hui. Les précisions de Laurence Théo.
Dans cet ouvrage, les deux journalistes se basent sur des archives du Saint-Siège qui révèlent donc que le Vatican savait tout des agissements du prêtre et ce depuis près de 70 ans. Les deux femmes sont formelles. Dès l'automne 1955, non seulement le haut clergé français connaissait la face noire et la dangerosité de l'abbé Pierre, mais le Saint-Siège aussi. Et avec cette nouvelle révélation, l'hypothèse d'une protection sciemment organisée en France se confirme. Les autrices rapportent en effet qu'une procédure judiciaire avait été freinée par les évêques de France, puis enterrée 2 ans plus tard, en 1957. Elles ont retrouvé aussi la trace d'une réunion consacrée à l'abbé Pierre. Dans le livre, un long compte-rendu dresse la chronologie des agissements sexuels du prêtre et détaille les alertes données par des cardinaux américains et canadiens qui demandent de le suivre de très près. Par ailleurs, le livre nous apprend aussi qu'un courrier daté de 1955 a été envoyé à l'évêque de Versailles, en poste à l'époque, lequel répond que les faits ne sont pas si graves et surtout que l'abbé dispose d'une telle aura en France qu'il vaut mieux ne pas bouger. Il parle d'un symbole qui galvanise à la manière d'un prophète.
Il a fallu attendre 100 ans pour pouvoir le filmer en direct dans son habitat naturel. Un calmar colossal a été observé à près de 600 mètres de profondeur par une équipe internationale de scientifiques. Alors les images de ce calmar intriguent encore les spécialistes. Juliette Pietraszewski.
Il est bien loin des monstres des mers décrits dans les légendes de marins. L'individu observé dans l'océan Atlantique Sud est un calamar de près de 30 cm de long, transparent, à la teinte rougeâtre avec des tentacules. Si les calamars colossaux adultes peuvent atteindre une dizaine de mètres de long et peser jusqu'à 500 kg, celui-ci n'est pas pour autant un bébé à proprement parler. Le docteur Aaron Evans est un scientifique indépendant spécialiste de la famille des calamars de verre. Il a identifié l'espèce une fois les images transmises par le Schmidt Ocean Institute.
On sait que les calamars colossaux adultes peuvent être très grands, mais on ne connaît pas vraiment ceux entre leur vie de bébé et d'adulte. Donc cette vidéo nous aide à combler un manque.
Et avec cette découverte filmée sous les mers, le docteur Aaron Evans se pose encore plein de questions.
Comment ça chasse? Comment ça se comporte dans l'eau? Le comportement qu'on a vu pourrait avoir été affecté par le fait qu'il y avait un véhicule bruyant avec de la lumière en train de le filmer sous l'eau. Le calamar croyait peut-être qu'on était des prédateurs.
Le scientifique espère qu'à l'avenir, de nouvelles technologies moins intrusives pourront permettre de capturer des images de ces calamars colossaux.
Et vous êtes toujours à l'écoute de RFI, tout de suite la suite de RFI Midi, avec vous Clotilde Dumay.
Et merci, c'était Olivier Sherman pour le journal. On passe au sport. Bonjour Victor Missistrano.
Bonjour à toutes et à tous.
Et un journal 100% football, hein, puisqu'on revient sur cette soirée de Ligue des Champions. Et finalement, pas de miracle pour le Real Madrid hier soir.
Sèchement battu à Londres au match aller 3-0, les tenants du titre se devaient de réaliser un énième exploit au Bernabeu sur la scène européenne. Ils n'y sont pas parvenus. Nouvelle défaite contre Arsenal 2-1. Après avoir manqué une panenka sur penalty en première période, l'anglais Bukayo Saka s'est bien rattrapé en ouvrant le score après l'heure de jeu. Égalisation dans la foulée de Vinicius. Et dans les arrêts de jeu, c'est un autre Brésilien, Gabriel Martinelli, qui a offert la victoire aux Gunners. Des Gunners qui vont donc retrouver le dernier carré de la Ligue des Champions. C'est une première depuis 2009. Et l'entraîneur Mikel Arteta, qui prévient le PSG, futur adversaire, ne compte pas s'arrêter là.
On a rendu nos supporters heureux, c'est le but de notre travail. Maintenant, il faut voir plus loin. Personnellement, je ne suis pas rassasié. Nous avons un duel formidable à venir face au PSG, une équipe qu'on connaît très bien. Nous sommes armés pour ce choc et on va commencer à le préparer très vite.
Alors, c'était des propos recueillis par Thomas de Saint-Léger. Rendez-vous dans moins de 2 semaines, le 29 avril à l'Emirates, pour cette demi-finale aller entre Arsenal et le Paris Saint-Germain.
Et l'autre affiche opposera le FC Barcelone à l'Inter Milan.
L'Inter qui a su conserver son avantage d'un but après sa victoire 2-1 à Munich. Match nul 2-2 hier à San Siro. Le Bayern avait ouvert la marque par Harry Kane, mais le champion d'Italie a tout renversé en 3 minutes. D'abord grâce à Lautaro Martinez, puis à Benjamin Pavard, d'une tête très puissante à bout portant, avant une égalisation qui n'a donc rien changé à l'issue. Pavard, buteur contre son ancienne équipe, le défenseur français a bien choisi son moment donc pour inscrire son tout premier but chez les Nerazzurri.
J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit que j'allais marquer contre le Bayern. Voilà, moi j'attendais ce but depuis un certain temps parce que c'est mon premier but avec l'Inter. En plus, marquer à San Siro avec cette atmosphère, c'était quelque chose de spécial avec ma famille aussi qui était là. Donc j'ai plus de voix.
L'Inter Milan qui ira avec Benjamin Pavard à Barcelone le 30 avril pour la demi-finale. Allez.
Et puis après la Ligue des Champions, place à la Ligue Europa aujourd'hui.
Et tout reste à faire, Clotilde, entre Manchester United et Lyon pour une place en demi. 2-2 après la première manche. L'OL bien aidé au match aller par un André Onana pas impérial, le gardien camerounais, qui en a fait les frais ce week-end. L'entraîneur de United a préféré aligner le Turc Altay Bayındır pour garder les buts des Red Devils contre Newcastle. Mais Ruben Amorim l'a confirmé, Onana va bien retrouver sa place dans le 11 dès ce soir.
Onana est prêt. Il a eu un week-end où j'ai senti qu'il valait mieux pour lui qu'il ne joue pas et que c'était une bonne chose pour Altay de jouer. Cette semaine, j'ai pensé mettre Onana et il va être vraiment bon, j'en suis sûr. Mais si c'est le contraire, les gens diront que c'était une mauvaise décision. Donc on ne sait jamais. J'essaie d'être clair sur les choses et d'essayer de rendre l'évaluation vraiment simple, sans trop réfléchir. Et lorsque j'imagine ce match, je vois André Onana. Il a eu un week-end de repos. Maintenant, il est prêt à reprendre la compétition et je l'ai donc choisi pour commencer ce match.
Manchester United, Lyon, coup d'envoi de ce quart de finale. Retour de Ligue Europa, 19h, temps universel.
Et c'était le journal des sports de Victor Missistrano. La première ministre italienne Giorgia Meloni à Washington au moment où les diplomates américains, eux, sont en France. Le secrétaire d'État Marco Rubio est à Paris accompagné de Steve Witkoff, l'émissaire spécial de Donald Trump, pour poursuivre les pourparlers sur une éventuelle fin de la guerre en Ukraine. Des délégations allemandes, britanniques et ukrainiennes ont également rejoint la capitale française. Bonjour Nicolas Tenzer.
Bonjour.
Enseignant en géostratégie à Sciences Po Paris, vous écrivez aussi sur votre blog, hein, Tensor Strategic, et puis vous avez notamment publié ce livre, Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique, c'est aux éditions de l'Observatoire, et ça vient de paraître en format poche. Est-ce que c'est un aveu d'échec de la part des Américains, Nicolas Tensor, qui se déplace donc à Paris au moment où les négociations bilatérales semblent plutôt stagner, hein, avec la Russie?
Oui, je pense que c'est un aveu de faiblesse, tout simplement parce que les positions des Américains, qui apparaissent à beaucoup comme une forme de collusion avec la Russie, sont tout simplement inacceptables. On se rappelle que Steve Witkoff avait dit que pour conclure un accord avec la Russie, il fallait céder à Moscou quatre régions, celles de Kherson, de Zaporijja, de Donetsk, Lugansk, qui ne sont d'ailleurs absolument pas aujourd'hui totalement occupées par les Russes, sans même parler de la Crimée qui, elle, est occupée. Donc, c'est évidemment un abandon total. C'est un mépris non seulement du droit des frontières, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais cela signifierait aussi qu'on abandonnerait les populations qui vivent dans ces territoires aux joues russes. Et on sait que tous les jours, dans les territoires occupés, vous avez des viols collectifs, des tortures, des exécutions sommaires, des déportations d'enfants. On ne peut pas laisser, évidemment, Poutine continuer à faire cela. La deuxième élément, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, les négociations de paix ou les discussions de paix, ou même de discussions de trêve, d'abord, ne donnent rien parce que la Russie ne veut absolument pas en entendre parler. Et je crois même que le terme même est complètement inapproprié parce qu'on a un ennemi qui ne souhaite absolument pas céder, qui veut continuer sa guerre, qui veut continuer non seulement à avancer sur le plan militaire, mais qui continue jour après jour à cibler délibérément les populations civiles avec des bilans, comme toujours, effroyablement lourds en termes de victimes et notamment d'enfants.
Ces discussions qui s'organisent aujourd'hui à Paris, est-ce que on peut dire du coup, Nicolas Tensor, que ça replace un peu les Européens finalement au centre des négociations? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de plus? Qu'est-ce que les États-Unis viennent chercher aujourd'hui à Paris? Peut-être une discussion davantage avec les Ukrainiens?
Oui, alors il y a deux éléments. Il y a d'abord effectivement dire simplement qu'il y a des choses que proposent les Américains qui sont inacceptables, c'est-à-dire qu'il faut que l'Europe, de manière unie, pas seulement l'Union européenne, hein, puisque bien sûr le Royaume-Uni est inclus dans ces discussions, fasse valoir leur point de vue. C'est bien sûr la sécurité et l'intégrité de l'Ukraine qui sont en cause, mais aussi la sécurité de l'Europe tout entière. Donc je pense que les Européens, de manière totalement solidaires, doivent dire non à ces propositions américaines, doivent dire finalement aujourd'hui ce que l'on attend des Américains, c'est qu'ils continuent à aider l'Ukraine, et on a l'impression que Trump ne le veut pas, à lui fournir des armes et à défendre les bases du droit international, surtout à un moment où en fait les Russes ne peuvent pas gagner cette guerre. Les Ukrainiens ne peuvent pas aujourd'hui reconquérir tout le territoire perdu, mais en même temps, nous ne sommes pas du tout dans une position de défaite de l'Ukraine. L'Ukraine continue, et le fait d'ailleurs de mieux en mieux, à cibler des installations militaires russes en territoire russe, qu'il s'agisse de dépôts de munitions ou de dépôts pétroliers ou de raffineries, continue à résister aujourd'hui aux coups de butoir de l'armée russe, et donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour que l'Ukraine cède. Vous savez, c'est ce que disait récemment une ancienne députée ukrainienne, si nous continuons à résister, nous savons que nous allons perdre des milliers des nôtres, mais si nous cédons, nous en perdrons des millions. Et ça, c'est cette réalité-là qu'il faut faire comprendre aux Américains.
Mais vous dites que les Européens doivent effectivement rappeler leur position face aux États-Unis, mais ces dernières semaines, Washington n'avait pas vraiment d'intérêt, n'écoutait pas vraiment les Européens.
Absolument, ni les Européens ni les Ukrainiens, mais c'est-à-dire que si vous avez une forme d'accord séparé entre la Russie et les États-Unis, les Européens peuvent parfaitement s'y opposer, les Ukrainiens bien sûr aussi. Je veux dire, aujourd'hui, ce ne sont pas évidemment les Américains et les Russes qui peuvent de leur côté conclure une forme de prétendu accord.
Parce que et ils s'en rendent compte aujourd'hui?
Alors je ne sais pas, c'est-à-dire qu'on a vraiment, l'impression que les Américains sont aujourd'hui totalement dans l'idée d'une sorte d'accord avec la Russie, coûte que coûte et à n'importe quel prix. Et on a vu ainsi récemment la porte-parole de la Maison Blanche dire ce qui est important, c'est qu'on rétablisse des liens commerciaux et économiques avec la Russie. Peut-être que ça amènera la paix. Non, au contraire, ça va donner une sorte de, comment dire, de bol d'air à l'économie russe qui est quand même extrêmement mal en point, avec un rouble qui dégringole, un taux d'inflation record, des taux d'intérêt absolument insupportables pour les entreprises et par les particuliers, des infrastructures totalement délabrées. Et donc ça, il faut éviter aussi, parce que c'est la sécurité de l'Europe qui est en cause, de donner effectivement cette forme de répit aux Russes, parce que ce répit signifierait que la Russie pourrait se réarmer de manière beaucoup plus massive et que d'ici 3 ans, 4 ans ou 5 ans, et les renseignements allemands notamment et d'autres pays occidentaux le confirment, bien sûr la Russie ne va pas s'arrêter là. Donc au-delà de l'Ukraine, c'est vraiment la sécurité de l'Europe et il n'y a pas de raison que ce soit les Américains qui en décident. Donc on attend une position de fermeté. Alors encore une fois, les Américains vont faire les choses dans leur coin.
Est-ce qu'elle peut arriver dès aujourd'hui, Nicolas Tenzer, cette position de fermeté? Est-ce qu'on peut attendre quelque chose là de ces discussions aujourd'hui à Paris?
Alors, je pense qu'il le faudrait. Je ne sais pas si ça va arriver ou pas. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression, malheureusement, que les Européens ne veulent absolument pas brusquer les États-Unis. Alors, sauf sur le plan commercial, bien sûr, mais sur le plan, en tout cas, militaire et diplomatique, disent oui, il faut faire avec les Américains. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut abandonner cette rhétorique. Il faut clairement dire non aux Américains. C'est inacceptable, point. Vous faites ce que vous voulez dans votre coin, personne ne peut vous en empêcher. Mais nous, nous vous disons non. Et je pense que surtout, le terme de négociation de paix, qui est une sorte d'oxymore, c'est-à-dire de contradiction interne avec la Russie, il faut s'écarter, je crois, délibérément, clairement, de cette rhétorique aujourd'hui qui risque finalement de nous affaiblir, nous, Européens.
Merci beaucoup, Nicolas Tenzer. Je rappelle que vous êtes enseignant en géostratégie à Sciences Po Paris. Merci d'avoir répondu sur RFI.
RFI Midi, Berlin, 96.7 FM.
Il est presque 12h30 en temps universel. Il y a un an, la France et l'Allemagne décidaient de créer un fonds commun dédié à la recherche de l'origine d'œuvres culturelles africaines détenues dans les musées de ces deux pays. Les projets concrets sont désormais lancés. Un congrès vient de se tenir à Berlin pour les présenter. Un reportage de Delphine Nerbollier.
Le Fonds franco-allemand de recherche sur la provenance des objets culturels d'Afrique subsaharienne est officiellement lancé. Au total, plusieurs dizaines de chercheurs vont travailler pendant 3 ans. Ils viennent de France, d'Allemagne, mais aussi du Cameroun, du Sénégal, du Bénin, du Mali ou encore de la Tanzanie, des pays qui ont été colonisés par ces deux puissances au 19e et 20e siècle. Après son discours de Ouagadougou en 2017, le président français a restitué 26 biens au Bénin. Pour Amadi Bokoum, ancien directeur du musée des civilisations noires de Dakar, cette étape a été cruciale.
Je veux parler de ce que j'appelle l'effet Macron. En déclarant, je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel des pays d'Afrique soit en France. Et en projetant de le restituer dans les 5 ans, ce qui n'a pas pu être fait, il a quand même ouvert les vannes. Personnellement, j'ai la naïveté de penser que les lignes feront plus que bouger, malgré de réelles résistances.
Désormais, c'est une nouvelle étape scientifique qui commence. Le Fonds franco-allemand a sélectionné 3 projets de recherche. L'un d'entre eux se concentre sur plus d'une centaine de restes humains, des crânes, des os, des squelettes pillés par les colons dans les actuels Cameroun, Tanzanie et Namibie. Des restes humains conservés dans les collections de l'Université de Strasbourg. Sylvain Djachezefa coordonne la route des chefferies au Cameroun et il participe à ce projet de recherche.
Il y a un travail encore beaucoup plus poussé que les historiens sont en train de faire. Ces restes humains sont partis de quelle communauté? On parle de 1902, 1905 pour le Cameroun. Comment était le territoire? Comment étaient organisées les chefferies traditionnelles? Voilà de quoi il s'agit.
Autre projet qui vient de débuter, il concerne les objets culturels issus de la communauté Banama et spoliés dans ce qui était le Soudan français au tournant du XXe siècle. Une partie de ces objets se trouve au musée du Quai Branly à Paris, une autre, encore plus importante, à Hambourg en Allemagne. Le troisième projet se concentre sur des objets du quotidien, des instruments de musique, des objets cultuels, des ustensiles de cuisine, familiers mais souvent méconnus dans leur société d'origine et dans les lieux où ils sont conservés. Les chercheurs souhaitent les relier de nouveau à leur communauté et notamment aux femmes, donner la parole à celles et ceux qui ont été exclus dans l'histoire coloniale. Delphine Herbollier, Berlin, RFI.
Et c'est un reportage à retrouver sur le site internet et l'application Pure Radio de RFI. Dans un instant, l'actualité africaine.
Les dessous de l'infox, Sophie Malibaud.
On observe sur les réseaux sociaux une recrudescence de messages trompeurs et dangereux sur les vaccins, avec des thèses complotistes alimentées par l'administration Trump. Le spécialiste des virus et des vaccins Frédéric Tanguy de l'Institut Pasteur nous aide à faire le point sur ce sujet critique pour notre santé à tous.
Les dessous de l'infox avec Sophie Malibaud, tous les vendredis à partir de 17h30 TU sur RFI. Tout à l'heure sur RFI, sur le pont des Arts, Marjorie Bertin.
Il y a 50 ans, le 17 avril 1975 marquait le début du génocide cambodgien perpétré par les Khmers Rouges. Au Forum des images de Paris, un cycle de cinéma, conférences et expositions rend hommage à ses victimes. Nous recevons sa commissaire, Soko Fai, et le dessinateur Serra.
Sur le pont des Arts, du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.